Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Pagnol 1. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Pagnol 1, donc il y aura un Pagnol 2. Pagnol, c'est un metteur en scène, c'est un écrivain, c'est un auteur de théâtre. Il est affublé de beaucoup de qualités et de casquettes. Alors, qui connaît Pagnol aujourd'hui ? Je dirais que ceux qui ont plus de 70 ans ont été initiés, ils ont vu les films en noir et blanc quand ils étaient plus jeunes. Et les moins de 40 ans peuvent au moins connaître les deux œuvres tirées de Pagnol en deux parties. D'un côté, les deux films de Claude Berry en 1986 et d'un autre côté, les deux films d'Yves Robert en 1990. Donc là, pour certains, finalement, ils n'ont pas vu l'œuvre de Pagnol directement, mais à travers deux films qui ont repris certains de ses ouvrages. Pourquoi deux émissions sur Marcel Pagnol ? En France, un seul créateur a atteint au XXe siècle son niveau par la qualité de ses œuvres. Et il a même été acteur, ce que n'a pas été Pagnol, c'est Guitry. Ces deux auteurs sont peut-être des oubliés du XXe siècle et ils pourront se rattraper quand ils seront redécouverts dans le courant du XXIe. Donc, Pagnol a une activité extrêmement importante. Il y a des œuvres théâtrales et littéraires de Pagnol. Il y a aussi des films. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a une proximité entre ces œuvres littéraires et les films ? Totalement, parce que certaines œuvres théâtrales sont adaptées au cinéma. Il va parfois tourner un film qu'il adaptera ensuite en littérature. Donc, toutes les œuvres chez Pagnol trouvent une résonance dans d'autres œuvres. Il fera même deux versions de Topaz, par exemple, et... Il y a chez lui toujours ce renouvellement, cette recherche de pistes nouvelles qui touchent à l'humanité. Pourquoi l'humanité ? En fait, Pagnol est universel. Il est universel comme Ozu, par exemple. Alors, pourquoi Ozu ? J'ai évoqué déjà, il y a quelque temps, Akira Kurosawa, qui est le plus connu des cinéastes japonais. Il y a aussi Mizoguchi, qui est beaucoup plus poétique. Et Yasuhiro Ozu parle de la famille, les rapports parents-enfants. C'est totalement inclus, ancré dans la mentalité japonaise, et pourtant c'est universel. Et c'est un peu ce qui se passe pour Pagnol, le caractère universel à travers des histoires qui paraissent anecdotiques et ancrées totalement dans un terroir. Et c'est justement parce que c'est très précis que c'est universel que l'on peut retrouver un sentiment identique sur l'adaptation de ces films, sur ces films à l'étranger. Alors j'ai fait dans le passé des émissions en deux parties sur de grands metteurs en scène, John Ford, Hitchcock, Clint Eastwood, Charlie Chaplin, et Marcel Pagnol partage avec eux certains points communs. Il a été scénariste, réalisateur, producteur. Donc je l'ai dit, pas acteur, même pas une petite apparition de clin d'œil comme Hitchcock. Donc la qualité de Pagnol par rapport, par exemple, à Hitchcock ou à Ford ou Eastwood, c'est qu'il est auteur de théâtre et il va adapter certaines de ses œuvres. Il est écrivain, il adapte certaines de ses œuvres et il sera surtout producteur. Alors producteur, c'est un élément essentiel pour la liberté de création et cela sera utilisé largement par Pagnol. Alors pour illustrer, je mets d'habitude des musiques de films, on aura deux musiques de films qui vont se succéder, mais par la suite je mettrai des extraits de films de Pagnol, parce qu'il y a toujours des scènes cocasses ou des scènes humoristiques. Donc pour le moment il s'agit de la musique du film La gloire de mon père qui a été tourné en 1990 par Yves Robert et qui était l'adaptation du premier tome des mémoires de jeunesse de Pagnol, La gloire de mon père. Thank you.
Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers.
On entendait la première phrase de Manon des Sources, de La Gloire de mon père, écrite par Pagnol. Alors, je parlais des casquettes de Pagnol. On oublie souvent, ou on ne sait pas toujours, que c'est l'activité de producteur qui est essentielle. L'activité de producteur, lorsqu'on est réalisateur, donne une liberté de création. On peut opposer d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis et en France entre le droit du producteur américain et le droit du producteur français. Dans le droit du producteur américain, il a tout, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, il est propriétaire du négatif, il va pouvoir faire un montage comme il le souhaite et il écartera si nécessaire le réalisateur. Alors les grands réalisateurs comme Spielberg et d'autres ont bien sûr par contrat ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire le droit de montage final, mais la plupart des producteurs font ce qu'ils veulent. Et vous avez un exemple avec la colorisation. La colorisation a été inventée aux États-Unis et tous les films que le producteur avait rachetés, des stocks de vieux films noir et blanc de certaines sociétés de production, il les a colorisés. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Par contre, en France, il y a ce qu'on appelle le droit moral du réalisateur sur l'œuvre, c'est-à-dire que son film ne peut pas être transformé. Donc la colorisation ne peut être faite que si le réalisateur le veut, ce qui a été le cas pour certains réalisateurs, comme par exemple Henri Verneuil avec La Vache et le Prisonnier. Quoi qu'il en soit donc, le producteur, c'est la liberté de création. Pour Chaplin, qui était producteur de tous ses films, il a fait ce qu'il a voulu. Pour La Rue et vers l'or, il y a une scène en extérieur qui ne lui convenait pas, et il l'a totalement refaite, en dépensant beaucoup d'argent. Et pour le dictateur, quand on le voit aujourd'hui, on dit « Ah oui, c'est un très bon film qui caricature Hitler ». On ne sait pas toujours à quelle date il a été tourné. Il a été tourné en 1941, c'est-à-dire un moment où Hitler est au pouvoir et où il y restera encore quelques années. Et jamais aucun producteur n'aurait financé ce film de Chaplin. Donc le dictateur, c'est l'incarnation de la liberté de création due à l'argent que possède le créateur et à faire ce qu'il veut. Donc Pagnol fait ce qu'il veut, il a créé des studios, et quand il tourne, on dit que dans l'après-midi, on pouvait s'arrêter pour faire une partie de pétanque, que ce n'était pas un problème. Alors pour montrer cette liberté et puis cette décontraction, on peut citer une anecdote, c'est Raymond Pelgrin qui joue dans Manon des Sources, en particulier en 1952, et il raconte qu'il faisait si chaud sur le tournage, que les cigales chantaient si fort, que Marcel Pagnol devait sans cesse arrêter le tournage à cause du vacarme. « On travaillera demain », lançait-il. Le régisseur lui répliquait « Tu vas nous faire perdre 1 million ». Et Pagnol disait « Le million, il est à moi ». Donc c'est tout à fait symbolique de ce que la casquette de producteur permet. Le réalisateur fait exactement ce qu'il veut parce qu'il est le producteur. Alors Pagnol avant ou en dehors du cinéma. Théâtre, livre, pièce de théâtre, écrit, on a du mal à isoler ses œuvres, puisque je le disais, il y a en permanence un retour entre le cinéma, la littérature, le théâtre. Alors le théâtre, c'est là que Pagnol se lance, et il va connaître 2 échecs au départ. Il présente Les Marchands de gloire en 1925 et Jazz en 1926. Alors, le sujet des Marchands de gloire est assez fort, et on pourrait dire intemporel, et étonnant pour l'époque. Alors on a le père d'un héros de guerre qui est mort, qui va se servir de sa gloire pour monter une carrière politique. Et il progresse dans cette carrière, et à ce moment-là, son fils réapparaît. Il n'est pas mort, il était seulement amnésique. Et il porte un regard très, très, très critique sur la guerre. Et finalement, le père qui a bâti tout son travail, tout son parcours sur la mort de son fils, se retrouve face à cette critique contre son militarisme. Pagnol antimilitariste, cela ne se faisait pas beaucoup à l'époque, et pourtant, cette pièce, il faut la revoir aujourd'hui, elle a une actualité absolument extraordinaire. Le succès vient avec la troisième pièce qui est Topaz. Topaz est en 1928. Finalement, le succès touche Pagnol relativement jeune. Il est né en 1895, donc il a la trentaine, et il va présenter cette pièce qui sera adapté plusieurs fois au cinéma. Je reviendrai sur toutes ces œuvres un petit peu plus loin, hein, quand j'examinerai les différents films qui ont été tirés de ces pièces. Donc, remarquable succès avec Topaz, et surtout, surtout, via la fameuse trilogie Marius, Fanny, César, qui va, là encore, lui rapporter beaucoup, et donc lui permettre d'investir dans le cinéma et de travailler en toute liberté. C'est donc cette liberté de créateur qu'il utilisera pour le théâtre, pour la littérature, pour le cinéma. Alors, on va faire un petit peu des détours, il n'y a pas une véritable chronologie, et on va évoquer tout de suite les quatre œuvres autobiographiques de Pagnol. Alors, on connaît généralement « La gloire de mon père » et « Le château de ma mère » qui ont été adaptés au cinéma Yves Robert 1990, mais on sait moins qu'en réalité, il y avait quatre ouvrages. Le tome 3, c'était « Le temps des secrets », et le tome 4, c'était « Le temps des amours ». Dans « Le temps des secrets », c'est ce qui se passe au lycée, donc les différentes classes que va suivre Pagnol au lycée Thiers à Marseille. Et « Le temps des amours » a été inachevé, dont il apparaît comme une sorte de recueil sur l'enseignement, là aussi, qui montre notamment le passage du baccalauréat. Donc, « La gloire de mon père », « Le château de ma mère ». On a écouté tout à l'heure la musique de « La gloire de mon père ». On va anticiper un petit peu et écouter maintenant la musique de Manon Dessources. Manon Dessources, je précise, version 1986, version Claude Berry. On verra qu'il y a plusieurs versions, notamment celle tournée par Pagnol. Donc Manon Dessources, la musique, c'est « La force du destin » de Verdi, qui fait peser le tragique sur le film. Et c'est ce que nous écoutons maintenant.
Thank you.
La gloire de mon père, le château de ma mère, donc les deux premiers tomes de ces quatre œuvres mémoires de Pagnol. Donc il y a un caractère mythique. C'est ça qui est magnifique dans La gloire de mon père et le château de ma mère, c'est le caractère mythique. C'est-à-dire que certains faits sont certainement vrais, mais d'autres ont été transformés ou même inventés par cet écrivain. En réalité, Pagnol, qui a passé la soixantaine, parle d'une époque où il était enfant, 50 ans avant. Donc forcément, il va transformer les faits et la situation. Mais ces livres sont extraordinaires par leur humour, leur poésie, leur sensibilité. Dans La gloire de mon père, dans le château de ma mère, il y a cet amour de Pagnol pour sa mère et pour sa famille en particulier, l'oncle Jules, Joseph, son père. Et il y a l'amitié pour Lili Desbellon. Lili Desbellon, c'est un jeune adolescent qui est paysan et qui connaît tout de la nature. C'est-à-dire qu'il va vagabonder avec Pagnol pour lui montrer tel ou tel paysage. Ils vont placer des pièges pour essayer de prendre des grives. Ils vont placer des pièges pour essayer de prendre des lapins. Donc c'est vraiment une connaissance de la nature de la part de Lili Desbellon. Alors, un point central, c'est le rapport entre Joseph, le père de Pagnol, et l'oncle Jules, son beau-frère. Il y a une opposition et finalement une générosité partagée. L'opposition, c'est sur la laïcité. Nous sommes à l'époque, c'est au début du XXe siècle, dans le cadre d'une laïcité combat. C'est-à-dire que les républicains s'étaient donné comme mission d'extirper les connaissances religieuses ou l'influence religieuse sur les jeunes enfants ou les adolescents. Donc, pour écarter le ferment de cette religion, on pourrait dire totalitaire, ils veulent utiliser les écoles pour faire disparaître ces éléments et pour cela apprendre aux enfants puis aux adolescents l'histoire, le français, la littérature, la philosophie, etc., tout ce que les régimes totalitaires ou théocratiques ne font pas apprendre. Donc le combat est réel. Les communes à l'époque, en 1905, se retrouvent propriétaires des églises, donc elles sont confisquées. Le mobilier à l'intérieur fait l'objet d'inventaires pour savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Quoi qu'il en soit, donc, c'est une époque où la laïcité est violente. Il y a, on pourrait dire aujourd'hui, une laïcité neutralité. La laïcité combat, c'était jusqu'aux années 40-50, la religion catholique a reculé. Aujourd'hui, effectivement, la laïcité combat pourrait faire une suggestion pour certains, puisque certaines religions, là encore, sont à contrer par l'éducation, par l'école, par l'histoire, par la littérature, etc., etc. Alors, c'est cette laïcité combat de Pagnol, c'est son père qui l'incarne. Joseph Pagnol, c'est l'incarnation du hussard noir de la République. Le hussard noir de la République, c'est une phrase inventée par Peggy pour qualifier les instituteurs dans les écoles primaires. Alors, en dehors des extraits pièces de théâtre, je vais vous donner deux extraits de livres de Pagnol. Alors, comment il décrit ces écoles ? Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression et que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. Hein, vous voyez la religion, comment elle est traitée. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse, et qui avait pour les ignorants la vertu perfide des formules magiques. Alors le Pagnol fait référence à l'inspecteur d'académie qui est le recteur, le ministre qui est le pape, et surtout il nous montre à un moment donné Joseph qui parle de son futur beau-frère. Donc Joseph Pagnol, l'instituteur, est marié et sa femme a une sœur, et c'est cette sœur qui va se marier à l'oncle Jules. Et l'oncle Jules est un catholique pratiquant, et Joseph dit au départ, avant de le connaître, je ne vais pas le supporter. Alors voilà ce que dit Joseph avant de rencontrer l'oncle Jules. Voilà l'intolérance de ces fanatiques. Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle est mariée à un homme qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets ? Eh bien, je veux lui montrer ma largeur d'esprit, je le ridiculiserai par mon libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de l'Inquisition ni de Calas, ni tant d'autres que l'Église envoya au bûcher. Et s'il essaie de me prêcher les conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment et je me contenterai d'en rigoler doucement dans ma barbe. Donc, opposition catégorique au départ, mais finalement, entente progressive, parce que Pagnol voit chez son oncle et son père la générosité, l'amour dans le progrès. Et ce qui va réunir ces deux hommes, c'est aussi la chasse, activité très pratiquée dans le sud-ouest à l'époque. Alors, ce n'est pas la chasse au sanglier d'aujourd'hui avec ses battues, c'est la chasse classique paysanne devant soi, avec les perdreaux, avec les lapins, avec les lièvres, etc., etc. Et c'est d'ailleurs là qu'a lieu la gloire de mon père. La gloire de mon père, vous le savez sans doute si vous avez lu le bouquin, c'est un coup de fusil, plutôt un doublé à des bartavelles, les bartavelles étant deux grosses perdrix. Donc il fait ce doublé et il en est fier, il va se promener avec ses deux perdrix dans le village pour se faire féliciter. Alors, une analyse qui est à introduire aussi sur la dimension fragile, bouleversante, déchirante, antimilitariste de Pagnol. C'est la fin de la gloire du château de ma mère. Sa mère est morte, son frère, lui aussi, va disparaître, et Lily Desbellon, son amie, qui connaissait toute la campagne, qui connaissait tout par cœur, va aussi disparaître. Je vous lis les phrases qui sont absolument extraordinaires. 5 ans plus tard, donc, je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère pour toujours. Puis le petit Paul est devenu très grand. Dans les collines qu'il n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Mais à 30 ans, dans une clinique, il mourut. Sur la table de nuit, il y avait un harmonica. Et puis le plus touchant, « Mon cher Lily ne l'accompagna pas avec moi au petit cimetière de la Treille, car il y attendait depuis des années, sous un carré d'immortels. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie, et il était tombé sous la pluie, sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. » Ça, je trouve ça extraordinaire. Et il termine en disant « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Donc, les deux films adaptés de ses œuvres, en 1990, La gloire de mon père d'Yves Robert, 1990, Le château de ma mère d'Yves Robert. Quand les films ont été annoncés, je me suis dit, ça va être terrible pour arriver à présenter Pagnol avec son côté mythique, ce sera impossible. Et pourtant, il y est arrivé, il a réussi. Alors, je fais dans la non-chronologie. Je passe à Marius, dont on parlera plus tard, qui est le premier film de la trilogie, où il y a une fameuse partie de cartes. Alors je dirais qu'il y a Cyrano et la tirade d'aînés, il y a la partie de cartes de Marius.
Eh ben quoi, c'est à toi.
Je le sais bien, mais j'hésite.
Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain?
Allons, capitaine, nous vous attendons.
C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous, combien nous avons?
30.
Nous allons en 34.
C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd.
C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur.
Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais, si tu coupes à cœur, mais tu fais jamais attention.
Non, mais ne te gêne plus. Montre-lui ton jeu pendant que tu y es.
Mais monsieur Fanny, si je n'ai pas donné de renseignements, je dis rien.
Tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler.
Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié.
Écoute, Fanny, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. Et j'ai jamais vu une figure comme la tienne.
Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur.
Oh, ton vainqueur. Regarde comme il est beau. Regarde-le. On dirait la statue de Victor Gelu.
Évidemment, je suis porté à croire que Fanny se coupe à cœur.
Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami.
Mais je dis bonjour à personne. Je réfléchis.
Eh bien, réfléchis en silence.
Mais il a raison. T'as pas besoin de parler pour savoir si Fanny se coupe à cœur, voyons.
Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu, et toi aussi. Alors, si vous continuez à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein.
Ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits.
Moi, je connais très bien le jeu de la manille, et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur.
Et il continue à faire des grimaces, hein. Tenez, monsieur Brun, surveillez Scartefig, moi je surveille César.
Comment? Tu me fais ça à moi? Un camarade d'enfance à toi? Je te remercie.
Oh,
je t'ai fait de la peine.
Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, là, un bandit de grand chemin. Tu me fais plaisir. Merci. Tu me fends le cœur.
Allons, César.
Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Tu me fends le cœur. Et alors, escarte-fille, qu'est-ce que nous faisons alors? Alors nous jouons plus, quoi? Il me fend, à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien, alors? À toi, il te fait rien, à toi.
Ah, très bien. Compris. T'es cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors il joue cœur, parbleu. Tiens, tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur, je ne joue pas avec un grec. Si on pas plus fada que tu, sas. Faut pas m'y prendre par un autre. Si on maître panis, et si est-ce pas profit par bagantade, tu me fends le cœur. Eh bien, par exemple, alors, tu me fends le
cœur. Oh. Il a pas l'air content, alors.
Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon.
Bah, il a tort, monsieur Brun.
Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher.
Écoutez, monsieur Brun, je ne peux pas tricher entre amis, mais c'est pas la peine de jouer aux cartes, alors.
Quand même, ce panis, quel caractère.
Oui, quel caractère. Mais en attendant, il s'est arrangé pour vous laisser les consommations à tous les deux.
Comment?
Comment à tous les deux?
Voilà la célèbre partie de cartes. Si vous n'avez jamais vu Marius, c'est un des sommets. Lorsque la pièce avait été présentée au théâtre, Pagnol avait hésité. Il a dit, est-ce que je présente cette partie de cartes ou pas? Finalement, Rému l'avait poussé et il a eu raison puisque c'est resté un grand morceau. Alors, autre œuvre importante au plan cinématographique et littéraire, L'eau des collines. Alors, L'eau des collines, on parle souvent de Jean de Florette et Manon des Sources. En réalité, là encore, on ne le sait pas toujours, cette œuvre a d'abord été Manon des Sources. C'est-à-dire que Pagnol a tourné ce film en 1952, Manon des Sources, avec d'ailleurs deux parties, Manon des Sources et Hugolin. Hugolin étant celui qui est amoureux de Manon et qui en devient pratiquement fou. Donc, Pagnol tourne Manon des Sources et le bossu n'apparaît qu'une trentaine de secondes dans un flashback très rapide. Et au bout de quelques années, il décide d'écrire un roman en deux parties et de décrire la situation avant, ce qu'on appellerait aujourd'hui un préquel, pour prendre des termes cinématographiques actuels. Donc, les deux romans auront comme titre général L'eau des collines, et il y a Jean de Florette, première partie, Manon des Sources, deuxième partie. Et c'est ce film, cette œuvre qui sera adaptée ensuite par Claude Berry, dont on a écouté tout à l'heure la musique, en 1986, Jean de Florette, en 1986, Manon des Sources, réalisé par Claude Berry, avec effectivement Yves Montand qui fait un rôle extraordinaire avec le papé, et surtout Daniel Auteuil qui a explosé dans ce rôle de Hugolin, un petit peu limité, qui est amoureux de Manon et qui en devient fou. Alors revenons à un extrait, on profite pour une fois, je dirais, de la littérature, du théâtre, de la voix et pas seulement de la musique. Donc, dernier extrait pour ce Pagnol 1, c'est dans César. César revient de l'enterrement de Panis, son ami de toujours, et ils vont discuter sur Dieu ou pas Dieu. Alors à l'époque aussi, c'est un petit peu choquant, mais Pagnol est toujours un tenant de la laïcité. Au passage, on utilise les termes chinois et nègre, parce qu'à l'époque, jusqu'aux années 50-60, le terme nègre était un terme commun, hein, et non pas une insulte comme ce sera depuis les années 70. À l'époque, on avait Aimé Césaire qui parlait de la négritude. Et même en 1984, il a fait un bouquin « Nègre, je suis, nègre, je resterai ». Donc, c'est un terme qui, à l'époque, est utilisé. Et il ne faut pas croire que c'était choquant au moment où le film est sorti. Donc voilà, ce retour de l'enterrement de Panis et cette discussion sur Dieu.
Ça vous aidera toujours à tenir le coup. C'est le petit vin blanc de Noé.
Cochère, il savait le choisir.
Ça m'a fait quelque chose de lire les commandements de Dieu. Ça m'a fait peur. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Brun?
Ma foi, je...
Chut, le pauvre mort.
Je ne suis pas particulièrement croyant. Cependant, j'ai vu dans cette cérémonie familière quelque chose de rassurant. Ah oui, de réconfortant.
Dites, ça vous réconforte de voir venir le curé avec celui-là?
Il y a quelque chose qui me tracasse, moi. Le bon Dieu d'Elzéa, le nôtre, si c'était pas le vrai.
Oh, coquine de Dieu!
Mais qu'est-ce que vous dites?
Mais je dis que j'ai connu des musulmans, des hindous, des chinois, des nègres. Leur bon Dieu, c'est pas le même. Et ils ne font pas comme nous. Nous, nous commettons des péchés que peut-être pour eux, c'est une bonne action, et vice-versa.
Oh.
Ils ont peut-être tort. Mais ils sont des millions et des milliasses. Et s'ils avaient raison, M. Breuil?
Il est certain que la question peut se poser.
Ce pauvre Panis est bien préparé au goût du bon Dieu d'Elzéa. Mais supposons qu'au coin d'un nuage, il se trouve nez à nez avec un bon Dieu qu'on ne lui a jamais présenté. Mais oui, enfin, un bon Dieu rouge ou noir ou jaune. Un bon Dieu déguisé en guignol comme on voit chez les antiquaires, ou ceux qui ont le gros ventre, ou ceux qui ont des tas de bras, là, comme les esquinades. Eh bien, ce pauvre Panis, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui dise? Et dans quelle langue? Et avec quel geste? Mais toi, tu te vois déjà fatigué par ta mort et tout vertigineux de ton voyage, en train de t'expliquer avec un bon Dieu qui ne te comprend pas. Et tu as beau lui faire des prières, il te dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Et ça, il te le dit en chinois.
Situation tragique. César, tu me donnes le grand frisson.
Sinon, la Sainte Bible, c'est des mensonges. Et les évangiles? Me dites, vous n'avez pas honte de parler comme ça devant l'enfant de cœur? Si vous alliez un peu plus souvent à l'église, au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le nôtre.
C'est entendu. Le bon, c'est le nôtre. Alors je pense que sur la terre, il y a des tas de gens qui sont couillonnés. Et ça me fait de la peine pour eux.
Alors venons-en directement au cinéma, et pas au théâtre ou à la littérature, qui a conduit au cinéma, mais au film Pagnol. Alors il faut déjà faire une opposition ici entre la position de René Clair et la position de Marcel Pagnol. Il s'agit de passer au cinéma parlant. Le cinéma parlant, c'est le chanteur de jazz en 1927 à Hollywood. Alors certains admettent facilement le cinéma parlant, d'autres pas. Là encore, on pensait à Chaplin, qui même dans les temps modernes, fait un film muet, avec quelques passages sonores, mais pour se moquer du cinéma parlant. Donc René Clair dit, avec le cinéma muet, on pouvait courir partout, faire des poursuites, des cascades, etc. Et le cinéma muet était bon pour cela, le cinéma parlant ne le sera pas. Et d'un côté, il a raison, parce qu'il faudra 5-6 ans avant qu'on puisse bouger beaucoup plus la caméra. Et Marcel Pagnol dit, c'est parfait ce cinéma parce qu'on pourra tourner des films ou voir des pièces de théâtre avec de grands acteurs dont on ignorerait les qualités. Et finalement, ce n'était pas si idiot que ça parce que Sarah Bernhardt, on n'a pas de compte rendu, si je puis dire. Lucien Guitry, le père Sacha, pareil. Et heureusement que Pagnol a filmé Rému, donc très très grand acteur. Donc, il défend cette idée et pourtant, très vite, il va être un véritable créateur cinématographique. Il est, pour certains aujourd'hui, le créateur du néoréalisme italien. Il a anticipé le néoréalisme italien à travers sa description réaliste et parfois noire du monde paysan. Alors Pagnol, c'est une troupe dont on parlera au début de Marcel Pagnol 2. C'était Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique, Chéliane Ahamada. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site de la station Esprit Occitanie, ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.